Jesus Christus.
La situation dégénère en Tunisie. Des affrontements ont éclaté devant le Parlement après sa suspension et le renvoi du Premier ministre par le président Kais Saied, qui s'est du coup arrogé les pouvoirs législatifs. La crise institutionnelle est ouverte. Nous retrouverons notre correspondant sur place. En Éthiopie, les hommes de la région Amhara sont appelés à prendre les armes contre les rebelles du Tigré. Le conflit qui oppose cette province dissidente au pouvoir central s'étend et gagne donc d'autres régions. Joe Biden reçoit le Premier ministre irakien aujourd'hui. Mustafa al-Kadhimi, tiraillé entre ses alliés américains et iraniens, est dans une position délicate. Au menu de cette rencontre, le retrait des troupes de Washington et la situation sécuritaire de l'Irak, alors que plane l'ombre de Daesh. Et puis, il y a 5 ans, le père Jacques Hamel tombait sous les coups de 2 terroristes en pleine messe dans une église de Rouen. Monseigneur Lebrun revient sur cette figure, exemple de simplicité et d'engagement fidèle, et sur les enseignements qu'il laisse. On en parle maintenant.
Radio Vatican, le journal, Manuela Affigi.
Bonjour à tous. La France n'oublie pas donc le père Jacques Hamel. Cela fait 5 ans que ce prêtre de Rouen a été tué par 2 terroristes islamistes alors qu'il célébrait la messe en l'église de Saint-Étienne du Rouvray ce 26 juillet 2016. Un hommage civil a eu lieu ce matin en présence du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, et de nombreux officiels de la République. Et auparavant, c'est une messe du souvenir qui a été célébrée par Monseigneur Dominique Lebrun, l'archevêque de Rouen. Le procès en béatification du père Hamel est en cours et l'enquête diocésaine a permis de prendre connaissance de ses enseignements. Sans encore parler d'héritage, Monseigneur Lebrun retient la force avec laquelle Jacques Hamel prêchait l'amour de Dieu. On l'écoute.
Nous sommes encore dans le deuil, nous sommes encore dans l'histoire au présent. Ce 5e anniversaire se déroule quelques semaines à peine après la disparition d'un premier témoin, Jeannine Coponnet, et 6 mois avant l'ouverture du procès d'éventuels complices. C'est-à-dire que nous sommes encore dans l'histoire, dans le présent de ce qui s'est passé. Ce que nous pouvons constater, c'est que petit à petit se décante un message, se décante quelque chose que nous pouvons comprendre. Et je suis très frappé par la manière dont la mort du père Hamel éclaire sa vie et comment sa vie, son ministère, éclaire sa mort. Nous avons dépouillé toutes ces homélies et finalement il prêchait l'amour de Dieu, l'amour de Jésus. Toutes ces homélies étaient pour montrer comment Jésus voulait aimer tout le monde, qu'il n'y avait jamais à désespérer de l'amour. Et finalement il a été convoqué au moment de sa mort pour, dans l'espérance voilà, que sa mort était unie avec celle de Jésus pour la résurrection, pour témoigner encore de l'amour.
Des propos recueillis par Jean-Charles Puzolu, un entretien retrouvé en intégralité sur notre site vaticannews.va. À la une de l'actualité internationale, je vous le disais, la Tunisie en pleine crise institutionnelle et politique. Après une journée de manifestation hier dimanche, le président Kais Saied a décidé de suspendre les travaux du Parlement et de limoger le Premier ministre Hichem Mechichi, ce que réclamaient donc les manifestants, car une partie de la population est en colère. Elle critique ses dirigeants pour sa gestion de la crise sociale et sanitaire. Elle a encore montré ce matin en manifestant devant le Parlement où des incidents ont éclaté. On retrouve Mohamed Haddad.
Devant le Parlement tunisien, des manifestants affluent. Qu'ils soutiennent le chef de l'État Kais Saied ou qu'ils soutiennent le président du parti Ennahda et du Parlement, Rachid Ghannouchi. La police a installé des barrages pour éloigner les uns des autres. Des jets de pierres et de bouteilles en plastique ont eu lieu de façon sporadique, causant quelques blessures. Le bureau de l'Assemblée des représentants du peuple doit se réunir via vidéoconférence. Par ailleurs, dans la capitale, la vie continue comme un mois de juillet habituel, des bouchons au centre-ville et des vacanciers sur le bord des plages. Le président du Parlement, Ghannouchi, et ses 2 suppléants ont tenté de rentrer au Parlement, mais l'accès leur a été refusé. Ghannouchi, très malade et affaibli, a qualifié cela de coup. Des dizaines, voire des centaines de milliers de Tunisiens sont sortis dans la nuit pour célébrer les décisions du chef de l'État, qui a suspendu les travaux de l'Assemblée, mais aussi limogé le chef du gouvernement et pris le contrôle de l'exécutif. Les prochaines décisions présidentielles seront déterminantes et éclairantes. À Tunis, Mohamed Haddad pour Radio Vatican.
Au Mali, l'homme qui avait tenté d'assassiner le 20 juillet dernier le président de la transition, le colonel Goïta, est décédé, et cela alors qu'il était en garde à vue. Une autopsie devrait avoir lieu pour déterminer les causes de son décès. Nouvelle mobilisation militaire en Éthiopie. La deuxième plus grande région du pays, la région Amhara, recrute ses citoyens pour se battre face aux rebelles tigréens. En effet, la guerre du Tigré, qui dure depuis 8 mois, s'est récemment étendue à 2 autres régions, les provinces Afar et Amhara donc. C'est pourquoi tous les hommes de plus de 18 ans sont appelés au front. C'est un développement plutôt inquiétant. Noé Ochebaudin nous explique pourquoi.
C'est une décision qui fait craindre un peu plus le basculement vers la guerre civile en Éthiopie. 2 semaines après avoir mobilisé ses miliciens, la région Amhara demande maintenant à sa jeunesse de participer au combat. Le président de la région requiert que tous les hommes de plus de 18 ans possédant une arme se dirigent vers le front, ou plutôt les fronts, car les forces Amhara affrontent les rebelles tigréens sur 3 de ses frontières, à l'ouest, au sud et au sud-est. Les entraînements ont déjà commencé dans la région. La rhétorique des autorités est la même qu'il y a 2 semaines, c'est-à-dire une guerre pour détruire le parti tigréen du TPLF. La région Amhara fait de ce conflit une guerre totale, assurant qu'il s'agit d'une lutte pour sa survie. Elle appelle au don des investisseurs et redirige les salaires de ses fonctionnaires vers les forces militaires. De leur côté, les rebelles tigréens assurent vouloir s'emparer d'une route stratégique entre Addis Abeba et Djibouti pour assurer son approvisionnement. En effet, depuis la reprise de la région fin juin, le Tigré est sous blocus, coupé de toute aide humanitaire. Addis Abeba, Noé Ochebaudin, Radio Vatican.
Courant mondial de manifestations, des centaines de milliers de personnes ont défilé samedi et dimanche en France, en Italie, Angleterre, Grèce et Australie pour dénoncer les restrictions liées au Covid-19, notamment l'imposition d'un pass sanitaire qui, selon ces manifestants, constitue une atteinte aux libertés des citoyens. Et alors que la crise sanitaire fait rage, les hôpitaux du Liban, eux, vacillent. Plus de médicaments ni d'équipements, sans parler des coupures d'électricité qui touchent tout le pays, à tel point que Beyrouth a conclu un accord avec Bagdad qui s'engage à fournir 1 million de tonnes de pétrole pour alimenter les centrales électriques. Toujours au Liban, retour à la case départ. Les consultations parlementaires sont lancées aujourd'hui pour trouver un nouveau Premier ministre. C'est la 3e fois en 1 an. Le favori est l'ancien chef de gouvernement Najib Mekati. Le patriarche maronite, le cardinal Rai, dit espérer la constitution d'un nouveau cabinet avant le 4 août, la date anniversaire de l'explosion du port de Beyrouth. En Irak, plusieurs attentats étaient planifiés pour la fête de l'Aïd, c'est ce que révèlent les services de renseignement. L'un d'eux, vous le savez, a visé le marché d'un quartier chiite de la capitale la semaine dernière, tuant 30 personnes. La situation sécuritaire de ce pays, sa capacité surtout à lutter contre les cellules encore actives de Daesh, autant de questions qui seront au cœur de la rencontre prévue aujourd'hui entre le président Joe Biden et le premier ministre irakien Mustafa Al-Kadhimi, attendu donc à la Maison Blanche. Anne-Sophie Lemouf.
La visite à Washington du premier ministre irakien Mustafa Al-Kadhimi ne devrait en aucun cas déboucher sur le retrait total des troupes américaines d'Irak. Au cœur de la rencontre Biden-Al-Kadhimi, le partenariat stratégique entre Washington et Bagdad, ainsi que des discussions sur le retrait des troupes de combat d'Irak 4 ans après la défaite du groupe État islamique à Mossoul. Officiellement, 2500 militaires américains sont encore déployés en Irak. Soumis aux pressions de groupes armés chiites proches de Téhéran, qui chaque semaine multiplient les attaques contre les forces américaines en Irak, Mustafa Al-Kadhimi a réitéré que Bagdad n'avait pas besoin de troupes de combat américaines ou étrangères sur son sol, que l'Irak était capable de se défendre. Il a toutefois souligné la nécessité de voir des troupes américaines continuer d'entraîner les forces irakiennes. En réaction, ces groupes armés chiites ont d'ores et déjà promis d'accentuer les attaques jusqu'à les bouter hors d'Irak. À Bagdad, Anne-Sophie Lemouf pour Radio Vatican.
La Californie est ravagée par un incendie si énorme qu'il a généré son propre climat. Les 5400 pompiers engagés sur le terrain voient donc leur tâche très compliquée. Des renforts des États voisins sont attendus. L'équivalent de la superficie de Chicago en termes de végétation est déjà parti en fumée. C'est aujourd'hui que s'ouvre à Rome le pré-sommet de la FAO sur les systèmes alimentaires. Il réunit des jeunes, des agriculteurs, des représentants des peuples autochtones, des acteurs de la société civile et du secteur privé, des chercheurs, des responsables politiques, en vue de préparer le sommet proprement dit qui aura lieu en septembre prochain. Le Vatican est aussi très impliqué. Il accueille d'ailleurs une des sessions de travaux. Et avant de clore ce journal, une pensée émue pour le père Bernd Hagenkort, ancien responsable jésuite de la section germanophone de Radio Vatican, décédé ce matin des suites d'une maladie foudroyante. Il avait 52 ans. La rédaction francophone s'unit à la douleur de ses collègues. Ainsi prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain matin à 8h30 pour une nouvelle édition en langue française. Très belle journée à toutes et à tous.